Born Again Savage. Little Steven, et je ne mentirai pas en disant que c'est du sport qui m'a demandé de le passer en entier, d'où notre retard, mais uniquement parce que la voix très fipienne de la speakerine de la semaine qui est en retard.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 2 mars 2013, nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Ja Not Dead, et à 17h FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1. Mais dans les médias, voici la série fantastique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Et tu te rends compte que tu frustres toute une armada de fans d'Heroic Fantasy, des Thorgal, des Lord of the Rings, et parce que tu mets avec des petits chiens. Alors les gens, ils vont vouloir le voir, mais c'est des petits chiens, est-ce que tu es conscient de ça?
Moi, je suis désolé, mais pour moi, c'est très frustrant l'autre version avec seulement des personnes très sérieuses qui parlaient la bouche fermée, parce qu'au dessin réaliste, ils parlent toujours comme ça, la bouche fermée. Et c'était ça que je n'aimais pas de ce genre de BD. Alors je l'ai fait à ma façon.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Dastridge et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Ultimatum.
Salut Dastridge.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Et donc voilà, c'était une blague idiote. C'est un copain qui s'appelle Morgan qui.
Morgan.
Avec qui j'ai eu le plaisir quand même de travailler, collaborer sur un projet. Ouais. Qui me dit oh chiche, je viens. Eh ben ok. Ce qu'il ne savait pas, ce qui allait lui arriver aujourd'hui.
C'est ça, exactement.
Et qu'en plus,
au pied du lit.
Et qu'en plus, il est le point central de l'émission puisqu'il n'a que une page sur les 25 du conducteur. Et que donc, il y a beaucoup de questions. En attendant, dans ce supplément week-end, beaucoup de choses avec, ma foi, un petit peu de sorcellerie. Ma foi aussi, on va parler de l'encyclopédie des animaux et on va aussi...
On va parler de chats aussi.
Et moi, je vais dire qu'il y a aussi de l'argot dans l'air.
L'argot Winch.
Ce qui tombe très très bien puisque dans le psychopathe de ce mois-ci qui est arrivé en kiosque normalement avant-hier, 5€ en kiosque, ouais, ils ont un petit peu monté le prix mais c'est garanti sans pub, et ben c'est un spécial ingérence, droit ou viol, où on a quand même des arabes qui se font défoncer la porte par des gros balourds d'européens en treillis. Et qui c'est, chérie? Ah, c'est la démocratie. Voilà, ça tombe bien, on va en parler tout à l'heure, puisqu'on va parler de science-fiction en Iran. En attendant, l'actu de cette semaine...
Il est fou ce type, il balance le magazine à côté du café, c'est super.
Voilà, l'actu de cette semaine sur la radio éphémère, c'est qu'il fait à nouveau beau et qu'on va pouvoir galoper un petit peu partout chez son libraire avec toutes ces nouveautés qui fleurissent et tout ça.
C'était la météo présentée par Dastridge.
Voilà, tout à fait. Mais il y avait une autre actualité. Alors Morgan, s'il est là, c'est parce que on s'est connu. Et d'ailleurs, je crois que tu connais aussi Thomas.
Peut-être. Ça passe peut-être. Dans mes souvenirs refoulés, peut-être. Je ne sais
moi,
pas.
Moi, je dirais moins que peut-être pour ma part. Mais je suis moins physionomiste que certains.
Il se rappelle plus.
Voilà. Dans ma vie privée, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur un projet très intéressant d'un produit en vidéo, un projet qui est fait par une start-up toulousaine qui est bardée de prix.
Startup
qui s'est retrouvée lors d'un événement qui a lieu tous les ans à peu près, c'est le Mobile World Congress qui à l'origine était à Cannes, qui maintenant est à Barcelone. C'est un événement que je rêvais d'aller depuis 12 ans. Bon bah j'ai pas pu, voilà.
Tu sais, il faut passer un message peut-être.
Ouais. À peu près, mais néanmoins c'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus actuellement d'applications de bandes dessinées mobiles. C'est quelque chose qu'on a commencé à voir arriver au moment de l'annonce de l'iPad par Apple, ce qui nous avait valu justement de faire un sujet là-dessus avec nos amis d'ActualD. On voit maintenant que Arte commence à faire de la coédition là-dessus, de ce côté-là. On commence à avoir de plus en plus de monde. Mais justement, puisqu'on avait quelqu'un qui était à ce forum professionnel, où il y a des éditeurs, des constructeurs, des opérateurs hôtesses. Téléphoniques, oui, des hôtesses aussi, et puis des très grands écrans, voire des très grands stands.
Ah, ça devient intéressant.
Faut toujours capter l'attention.
Ouais, oui, tout à fait. Ben justement, en tant qu'éditeur de téléphonie d'applications de téléphonie mobile, mais aussi en tant que graphiste et fan de bande dessinée, Morgan, je suppose que quand même tu as regardé un petit peu, t'en as profité pour sniffer un espagnol.
Malheureusement pas assez à mon goût, mais ouais, je suis allé fouiller à droite à gauche sur les stands un petit peu de nos voisins. Le salon est immense, il faut presque 20 minutes pour traverser de bout en bout le salon, donc c'est vraiment un grand village à Barcelone, au sein de Barcelone.
C'est professionnel,
et
pas
c'est
d'accès
professionnel.
Public.
Alors si tu as 700 euros dans ta poche, tu peux avoir un accès public, tout à fait. Mais c'est réservé, voilà.
Hors conférence technique et tout ça,
tout
donc c'est hallucinant.
Ça grouille de monde et puis pas n'importe lesquels, c'est vraiment très intéressant, de temps en temps on tombe sur des personnes... voilà, qui travaille chez Sony, Google, Facebook, alors qu'ils ne faisaient que passer par là. Et c'est the place to be pendant 4 jours du mobile dans le monde.
Toutes les annonces de téléphone portable, et je parle bien de téléphone portable, toutes les annonces sont faites à cet endroit-là. Sauf un fabricant. Mais un fabricant qui en ce moment est en berne, on va dire.
Ne commence pas à me lancer dans ce.
C'est un fruit, c'est ça?
Oui, d'accord. C'est un fruit vendeur de glace.
C'est le fruit du péché.
Exactement. Ben justement, on va en parler puisque le business model d'Apple, c'était de proposer un store qui soit indépendant des opérateurs mobiles. Mm-hmm. Et donc, tout d'un coup, une partie du budget, du potentiel budget du chiffre d'affaires de vente directe aux clients qui disparaissaient pour les opérateurs mobiles. Est-ce que maintenant ils sont toujours aussi présents, je veux dire, actuellement en part de marché, mais avec toutes les annonces qu'il y a eu, tous les nouveaux écosystèmes qui sont en train d'éclore, qui ont été annoncés cette semaine, est-ce que ça n'est pas justement un problème de morcellement qui va arriver?
C'est certainement, et c'est pour ça que je pense qu'en ce moment Apple est en train d'essayer de se diversifier à nouveau, puisque c'est vrai qu'en 2007 ils ont lancé l'iPhone, ils sont entrés dans le monde du mobile, chose où ils n'étaient pas du tout présents. Et maintenant je pense qu'ils vont refaire pareil avec, on parle depuis quelques années d'une télé ou en ce moment de montres, bon voilà, c'est des petites rumeurs comme ça. Donc je pense qu'ils sentent qu'en effet ils se font rattraper, ils n'ont plus autant d'avance sur les concurrents, donc je pense à Android notamment, et donc je pense que voilà, ils vont continuer à faire le même produit avec des petites améliorations, voilà, des petits bons en avant chaque année, comme ils sont très forts pour faire ça. Ils font leurs événements de leur côté, et je pense que voilà, le mobile, j'ai l'impression que c'est en train de s'estomper un peu. Ils ont lancé le truc, ils ont été un peu la locomotive, et maintenant je sais pas, peut-être que c'est une sorte de relais, voilà, ils vont laisser les autres prendre le pas. Et
alors il y a un débat qui a toujours eu lieu au sein du Super Weekend. Ça fait 9 saisons que l'on s'engueule là-dessus. C'est quand est-ce qu'un jour on va vraiment parler de jeux vidéo d'une manière régulière? La chose qui me frustre dans le jeu vidéo, c'est quand on achète une console.
Et allez, c'est en partie.
Les jeux, on les a pas tous forcément sur sa console. Et donc forcément, il y a le jeu génial que l'on ne verra pas, sinon à payer à une autre console à côté. Maintenant, donc, la question avec tous ces nouveaux écosystèmes, Firefox OS dont on a parlé en novembre dernier, l'arrivée donc du successeur de BAEMO, il y a Ubuntu effectivement. Qui est le successeur de BAEMO justement, qui donc est repris par Samsung.
Exactement.
Justement, est-ce que toi, ta vision en tant que salarié chez un éditeur de ce genre d'application, ça va pas justement contribuer à morceler y aura pas le truc pour Windows Phone, ou bien tel truc ne sera pas édité pour iPhone?
Certainement, mais après je pense que le public visé est pas le même. Par exemple, quand on est sur du Firefox OS, j'ai eu la chance de le tester pendant Mobile World Congress, on a quelque chose sur...
Seulement à ce moment-là.
On est sur quelque chose donc qui est full HTML5, donc
qui est sport,
assez lent.
Un café à côté peut-être.
Voilà. Et donc ouais, on est sur une plateforme lente qui je pense va s'adresser à des téléphones pour un marché différent. Je pense pas qu'on ait ça peut-être en Europe.
Mais c'est là où c'était intéressant, c'est que la bande dessinée numérique permettait à plein de petits studios etc d'avoir une diffusion internationale immédiate. Et maintenant, justement, ce morcellement, ben, ça va empêcher justement l'accès.
Ouais, mais je pense pas tant que ça, parce que ça va être un peu comme sur les ordinateurs où tu as un PC ou un Mac, et c'est vrai, il y en a plein d'autres, il y a Linux, etc., comme OS, mais finalement, il en reste toujours deux gros qui font en sorte de racheter tout ce qu'ils peuvent pour rester sur leur trône. Donc, je pense qu'on aura pendant encore longtemps iOS et Android qui vont avoir une belle part de marché, donc ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, tu pourras jouer sur n'importe quel smartphone à tes jeux préférés, ne t'inquiète pas.
Barcelone, c'est une ville qui a beaucoup d'éditeurs de bandes dessinées sur place, qui a de très belles librairies de bandes dessinées, je sais pas si elles y sont toujours d'ailleurs. Ce qui allait devenir Glénat España, qui était le premier le plus gros éditeur de manga d'ailleurs en Europe à une époque. Si je me trompe.
Éditeur d'accueil les distributions de manga, c'est important. Hein.
T'as profité un peu pour regarder ?
Pas trop, écoute, vraiment pas trop. J'ai pas eu le temps de faire mon touriste et d'aller me faire plaisir, mais écoute, prochaine fois que j'y vais, je reviendrai, je te ferai une chronique si tu veux, et avec plaisir.
On a vraiment été salauds, hein. On l'a vraiment pris, mais alors juste au moment où il sortait, où il arrivait, hop, je l'ai pris par le callback.
J'ai posé ma chère mobilette et il m'a chopé par le col comme ça. Viens, dépêche-toi, on est à la bourre
et hop, lecture du conducteur. Thomas.
Oui.
Oui. Rappelle-moi, je crois que tu avais quelque chose qui était prévu normalement, puisque toi tu as fait un autre salon.
Ah oui. Alors c'est le moment de
d'introduire
l'interview. Donc donc j'étais envoyé pour le supplément week-end au dernier festival d'Angoulême. Je vous ai ramené quelques interviews que nous avons déjà commencé à en passer en direct dans l'émission. Aujourd'hui, nous vous proposons l'interview croisée de deux auteurs d'Ankama qui sont Florent Maudou et Souria. Donc Florent Maudou, c'est le papa de la saga Freak Squeal qui est déclinée, on en parlera tout à l'heure, sur plein de supports et dans plein de collections de bandes dessinées différentes. Et il a commencé à écrire le scénario d'un spin-off de Freak Squeal qui s'appelle Rouge. Donc il a confié le dessin à une dessinatrice débutante qui s'appelle Souria. Et donc au moment de rencontrer Souria, je dis à l'attaché de presse, alors elle est comment, elle va arriver bientôt. Elle me dit oui, il est prêt, il va arriver. Ah d'accord, donc c'est un mec. Elle me dit oui, moi aussi je suis surprise. Il y a tout le monde qui est surpris puisque le design des personnages dans la bande dessinée est très très féminin, très aquarellé, d'inspiration manga un peu, quotidienneté du récit dans les mangas, les chroniques lycéennes, tu vois. Et donc voilà, donc nous vous proposons aujourd'hui l'interview de Souria et de Freak Squeal qui nous parlent du spin-off de Freak Squeal qui s'appelle Rouge. Voilà.
Interview donc enregistrée à Angoulême en février dernier. Thomas.
C'est silencieux là.
Oui. Il y a marqué 0 seconde sur la durée.
Oh le con. J'ai oublié d'appuyer sur rec.
Tu sais que je l'aurais pas. Enfin, moi aussi, ça a failli m'arriver plus d'une fois, hein, mais tu sais que je l'aurais pas fait si t'avais pas commencé ton interview par ça.
Je suis désolé. Hein. Donc, je vais dire à nos amis auditeurs pourquoi il y a des redites. Hein. Alors, amis auditeurs, bourde complètement farfelue de l'intervieweur, j'ai oublié d'appuyer sur rec. Donc, on refait l'interview, je suis vraiment désolé. Florent Maudou, bonjour.
Rebonjour.
T'as le droit de me traiter de boulet.
Rebonjour, et tu as m'aider, je vous aime tous.
Souria, bonjour.
Bonjour.
Alors, justement, on va reprocéder aux présentations. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et comment tu t'es retrouvé aux commandes de l'adaptation du spin-off, justement, de Freak Squeal Rouge ?
D'accord. Alors, je m'appelle Souria et j'ai 26 ans. J'ai fait des études d'animation à la base. Et donc, après l'école, Florent m'a contacté pour faire le spin-off. J'étais pas du tout. C'était un peu, comment dire. C'était nouveau pour moi, enfin, j'avais jamais fait de BD avant. Et donc j'ai sauté sur l'occasion parce que ça m'a toujours plu de faire de la BD. Voilà.
Donc tu disais en off que c'était plutôt. C'est John qui t'avait présenté Souria.
Le même John que dans Maliki, là, le grand barbu norvégien. Là.
Et donc, est-ce qu'il avait un catalogue de dessinateurs ou est-ce que ça a été juste le seul nom qui t'a présenté pour céder à ce spin-off?
Il avait un catalogue assez épais de dessinateurs et le dessin de Souria, il a très vite popé au milieu de tous ces jeunes talents, quoi. Et ça m'a vite donné envie de travailler avec lui, quoi. Après ça, je connaissais aussi son nom sur les forums. D'ailleurs, John croyait aussi que Souria était une fille.
Ah, ben je suis pas tout seul alors.
Non, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul.
D'accord, parce que c'est vrai que quand on regarde juste le graphisme, tu as quand même un dessin très très féminin. Est-ce que tu en es conscient?
Oui, non, en fait, j'étais. C'est vrai qu'on prend un peu ce côté-là, mais à la base, pas vraiment. Enfin, c'est maintenant que je me rends compte vraiment. Maintenant que tout le monde me dit ah oui, tiens, c'est très féminin.
Vous avez vu que j'essaie de poser des questions originales par rapport à tout à l'heure. C'est trop bien.
On refait pas la même, c'est bien.
Alors par contre, il y a une question, je suis assez fier, donc je vais la reposer. Alors au départ, Florent, il voulait développer un spin-off sur Valkyrie. Est-ce que tu es conscient que, à cause de toi, on est tous passés à côté d'une BD consacrée à une guerrière à gros seins?
Pas vraiment. Enfin, j'aime bien Valkyrie, mais je trouve que Xiomar, enfin, c'est mon personnage préféré dans Freaks 8, et je pense que je préfère que les gens connaissent plus sur elle que Valkyrie. Voilà, je suis assez content qu'on ait fait sur Xiomar finalement.
Florent, est-ce que un jour tu arriveras à faire des BD en dehors de l'univers Freaks 8? Parce que même dans Doggy Bags, petit filou, tu te débrouilles pour refourguer Massico quand même, la mère de Petit Panda.
Alors, est-ce qu'un jour j'arriverai à me départir de cet univers? C'est difficile à dire parce que j'ai vraiment prévu. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, si je te l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment prévu l'univers de Freaks comme étant le plus large possible pour que je m'ennuie jamais. Parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite de choses routinières et du coup, je peux toujours tout rattacher. Mais bon, bah pourquoi pas. Ah si, ouais, pourquoi pas un jour. Ouais. Ça peut arriver même plus vite qu'on ne le pense, en fait.
C'est une demi-exclue alors.
Pardon, qui ?
C'est une demi-exclusivité alors, ce que tu viens de me révéler.
Exactement, c'est une demi-exclusivité. Ce qui veut dire que peut-être que sur un petit projet rapide là, dans les mois à venir, je travaillerai sur d'autres choses que du Freaks.
D'accord. Florent a l'habitude de dessiner Xiong Mao plutôt en bombe sexuelle en fait. Surtout qu'il a pris l'habitude maintenant de beaucoup la dénuder, surtout dans les derniers tomes de Freaks 8. Toi, tu choisis plutôt Souria, la chronique écolière avec une héroïne pas encore affirmée. On voit qu'elle a un gros pull pour cacher ses formes. Quelle liberté il t'a donné par rapport au corps justement de son héroïne, qui d'ailleurs, on doit le préciser, est inspirée de sa copine.
Il m'a laissé assez libre en fait, et j'ai eu beaucoup de chance sur ça parce que il m'a pas donné beaucoup de contraintes. La seule contrainte qu'il m'a donné, c'est que Xiong Mao doit avoir les cheveux courts, et ensuite il m'a laissé assez libre. Je lui ai proposé plusieurs versions et on a discuté, mais je me suis pas senti cloîtré dans la Xiong Mao de Freaks 8. C'était une bonne expérience.
Et toi, ton point de vue, Florent, sur ce qu'est devenu ton personnage?
Je trouve que c'est une version super intéressante de Xiong Mao, et c'est vraiment c'est chouette de la voir vivre sous les traits d'un autre dessinateur avec une autre sensibilité et une tranquillité qu'il n'y a pas dans Freaks 8. Freaks 8, ça va à 100 à l'heure, et dans Rouge on a réussi à poser une ambiance assez différente, et Xiong Mao qui, tout en étant Xiong Mao, est une jeune fille beaucoup plus fragile que la jeune femme de Freaks 8, quoi. Donc moi, j'en suis très content, et je pense que j'aurais pas réussi à faire mieux, quoi.
Souria, c'est ta première bande dessinée. Alors non seulement tu as dû te coltiner toutes les scènes de dialogue plutôt posées, mais aussi les scènes de Flamendo. Alors, pour retranscrire justement en termes de découpage, en termes de dessin, ce mix entre l'art martial et la danse, comment est-ce que tu t'y es pris, et est-ce que Florent t'a donné des conseils?
Oui, Florent m'a donné beaucoup de conseils sur le flamenco. On a regardé beaucoup de vidéos sur la danse indienne, le flamenco aussi, sur la danse du ventre. C'était agréable.
Ah ouais, je pense que ça a été vraiment très très dur de se documenter là-dessus. Hein.
Ce que Surya dit pas, c'est que tous les jours on se bat à l'atelier quoi, pour rentrer dans la peau de nos personnages. Et là, vous ne nous voyez pas, chers auditeurs, mais nous sommes couverts de bleu et d'ecchymoses.
Que vous cachez derrière vos masques de luchador.
Exactement.
Sinon, sur la technique du flamenco, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as beaucoup cherché? Est-ce que tu as beaucoup développé justement en termes de découpage et de dessin? Ou alors est-ce que c'est venu naturellement?
Non, c'était pas du tout naturel. Au début d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal parce que j'étais pas encore habitué à dessiner des poses de danse, un peu combat. Mais au bout d'un moment, c'est venu quoi. C'est, comment elle s'appelle cette danseuse là qui m'a montré une vidéo?
Oh là, je me souviens plus.
En fait, ça m'a beaucoup inspiré.
C'est une blonde avec une barre verticale, c'est ça?
Non, c'est pas ça. c'est vraiment de la danse, danse du ventre et dans ce domaine-là. Et je me suis inspiré de ça, surtout le mouvement des mains et plus la danse que le combat en lui-même, en fait. Voilà.
Et vous avez travaillé en même temps sur toi sur le dernier segment de Doggy Bags et lui sur Rouge, ou comment ça s'est passé? Parce que tu as aussi expérimenté la danse du ventre pour l'histoire de Massico au Mexique.
Bah pour Massico au Mexique, non, c'est pas trop la danse du ventre que j'ai. Je me suis inspiré, j'ai surtout regardé les pole dance, mais aussi les danses sur toile tendue, des trucs assez, assez dingues, pas forcément liés à l'industrie du. D'érotisme, mais parfois lié au cirque aussi. Mais de toute façon, tout est source d'inspiration. À partir du moment où vous avez quelque chose de beau, pourquoi ne pas le regarder et le mettre dans vos BD quoi. Mais pour revenir à la chronologie, je crois que j'avais déjà terminé Doggy Bags 2 lorsque Surya est arrivé à l'atelier. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais.
Alors quelle est la suite? Là cet album ça s'appelle Rouge, est-ce que vous partez sur une déclinaison comme chez les Pokémon, la version Ruby, jaune, bleu, noir, blanche, or, saphir?
Non.
L'idée c'est de proposer une série, donc pourquoi pas avec des couleurs différentes. Ouais. J'aimerais bien terminer par gold parce que j'aimerais bien devenir gold à Starcraft. Pour l'instant je suis coincé en silver, ça me fait chier. J'arrive pas à être meilleur.
Pourquoi ça s'appelle rouge?
Rouge parce que c'est la couleur du sang, c'est la couleur des triades chinoises. Et les triades certaines triades sont désignées par le mot Hung. Et Hung c'est ça peut être rouge ou héros. Comme Ifrix Quill parle des écoles de héros aussi, ça tombait plutôt sous le sens. Ça prend racine dans des. Parce que en fait le kanji qui représente héros et rouge pour ces triades là c'est le même.
Et puis c'est vrai que dans les films de John Woo, les triades, il y a beaucoup de rouge sur les costumes quand même, ça tâche.
Ouais, ça s'accroche beaucoup partout. Ouais.
Alors Surya, dernière question, si tu devais travailler sur un autre personnage de Freak Squeal pour un spin-off, lequel tu choisirais en fait?
Lequel? Eh bien, j'aime bien aussi.
Attention, un appel du pied en direct.
Non, en fait, honnêtement, dit comme ça, je trouve que c'est vraiment rouge. C'est vraiment mon personnage préféré. Après les autres, je les aime beaucoup, mais je ne verrais pas vraiment faire un spin-off sur eux. J'ai l'impression que ce serait peut-être pas une histoire qui collerait à mon univers en fait. Et le fait que ça soit Action Mort, c'est pour ça que j'ai vraiment mis beaucoup d'investissement à le faire et que ça a vraiment une place spéciale dans mon cœur.
Bah, ça te conforte dans ton choix du coup.
Ah non, mais de toute façon, ça tombait sous le sens quand j'ai vu le dessin de Surya. Je me suis dit, c'est pour la jeunesse de Xiong Mao et pas d'autres personnages. Il n'y avait pas.
Pour Valkyrie, ça aurait moins collé déjà, je trouve, mon style de dessin.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas insisté à l'époque sur Valkyrie, parce que effectivement, ça. Même Surya, il aurait pas. Il se serait pas senti bien dedans, quoi. Dans cet univers, l'univers de Valkyrie est différent, quoi. Il est beaucoup plus coloré, moins intimiste, plus dans une explosion de références. Alors que Rouge, ouais, on est vraiment dans la vie des personnages et dans un côté très finalement on retombe sur des sur les chroniques pas sociales mais les chroniques quasiment du journal intime quoi.
Oui, la quotidienneté du récit plus tranquille comme dans les séries de manga qu'on aime tous quoi.
Oui, voilà, c'est ça, et c'est des mangas qu'on a beaucoup qu'on partage avec avec Surya. Comme Juliette Je t'aime, les mangas de Mitsuru Adachi, voilà, c'est des références qu'on partage. À partir de là, on s'est très vite retrouvé, on s'est très vite mis d'accord sur l'écriture de Rouge. L'écriture d'un livre, ça se fait surtout quand tu travailles avec un scénariste, enfin avec un dessinateur, ça se fait à deux, quoi. Il faut voir si l'autre il est réceptif à ce que tu peux lui écrire.
Dernière question pour Florent et on en termine avec l'interview, comme ça on pourra aller se mettre au chaud. Run a dit que tu lui avais bien sauvé la mise sur le tome 3 de Mutafukaze. Quel a été ton degré d'intervention sur l'album, puisque je crois que tu as travaillé sur la couverture et tu as travaillé sur les finitions?
Bon, pas grand chose en fait, c'est de la finition, c'est-à-dire il y avait des couleurs qui manquaient sur une page, il voulait un style un petit peu peinture pour certaines des cases. C'est un petit peu comme ces épisodes de manga qui se terminent sur un instant figé très très chargé au niveau peinture, et ça marchait bien avec mon style, donc voilà, j'ai m'a demandé deux ou trois trucs comme ça. Et pour la couverture, effectivement, les nuages n'étaient pas faits genre à deux jours du bouclage, et moi je pouvais lui faire, donc j'ai fait les nuages du fond, j'ai fini les nuages du fond avec les personnages quoi.
Mais voilà, c'est des têtes qui sont stylisées et qui évoquent les nuages en fait derrière.
Oui, c'est ça, ils avaient déjà été dessinés par Run, moi j'avais juste à refaire un style nuage que je me sortirais assez facilement sans trop de difficultés quoi.
Eh bien, Souria et Florent, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à toi et bonne journée.
D'habitude, c'est Florent Maudou qui fait le con dans les interviews.
Oui, oui. Alors,
bon, je vais pas jeter quand même une pierre à Thomas.
Oh, c'est la première fois que ça m'arrive.
C'est mon équipement. Bon, c'est pas la première fois qu'il manipule, mais bah, bon, si ça m'est arrivé des fois. Hein. Une fois, j'ai inversé des jacks. Ah. Heureusement, avant une interview.
Ouais, ça t'est arrivé. T'as voulu brancher le casque sur la prise micro, je m'en souviens.
Ouais. Donc voilà. Bah, on peut encore faire le con au bout de 20 ans d'antenne.
Et heureusement.
Bref.
Alors oui, petite précision, l'interview a été réalisée au bar Latitude Pub qui était en face des bulles à Angoulême. On était dans le froid dehors. Alors c'était.
Vous n'êtes pas rentré ?
Non, parce que.
Il y avait MCM à fond.
Il y avait ça, et puis il y avait surtout le temps qui était relativement clément, puisqu'il faisait que 0 degré, qu'il y avait un petit peu de soleil, donc on est resté dehors. Merci donc à la disponibilité de Florent Maudou et Souria qui ont pas rechigné à recommencer l'interview suite à cette bourde technique. Donc Florent Maudou qui est quand même un habitué de cette émission, puisque c'est la troisième interview que nous réalisons de cet auteur. Alors, à chaque fois ça se passe très très bien, c'est quand même un grand déconneur qui se prend pas au sérieux par rapport à sa bande dessinée, je sais pas si Morgan connaît la série Freak Squill.
Je mentirais en disant que je la connais parfaitement, mais ouais, j'en ai entendu parler bien sûr.
D'accord, donc c'est une BD qui raconte le quotidien d'une école de super-héros avec que des bras cassés dedans. D'ailleurs, on va parler des deux séries dont il était question dans l'interview, si Xavier permet qu'on enchaîne.
12h31, la pub radio attendra, donc vas-y.
Alors voilà, donc Freak Squill, donc la série principale, donc se réédite en Terrificolor, donc c'est en version couleur, avec des albums qui sont divisés par deux. Donc là, c'est plus un format franco-belge, hein, cartonné classique. Donc c'est la même chose, hein, sauf que c'est en couleur, parce que la série principale, il y a des pages en noir et blanc et en couleur. Là, c'est uniquement en couleur. C'était une volonté de l'auteur, parce que il avait beaucoup de questions en disant pourquoi il y a des pages en noir et blanc, pourquoi il y a des pages en couleur, ça revenait tout le temps. Il s'est dit bon, allez hop, on refait.
Il a cédé au public.
Ouais,
il a cédé à l'attente du marché, ouais, au lieu de faire de l'art. Ouais. Putain.
Voilà, la volonté artistique a été détruite par le commerce.
C'est ça.
Il y avait ça.
C'est dramatique.
Et puis aussi, il voulait aussi retrouver un côté aventure qui pouvait. Enfin, sa série s'adresse à un public assez vaste, et il avait peur que le format un peu bancal, le noir et blanc et couleur, divise un peu son public et que les gens, ils aient un peu peur de ce format-là. Donc c'est vrai que là, on est vraiment dans la bande dessinée d'aventure, plutôt un peu plus formatée, etc. Et je pense que ça peut toucher un nouveau public.
C'est vraiment sympa parce que si on a lu les tomes originels, puis il faut savoir que la série continue d'être publiée sur l'ancien modèle. Parallèlement à ça, c'est bien de redécouvrir la série parce que voilà, avec des couleurs en plus.
Eh ben oui. Tu vas me les laisser alors.
Eh ben je peux pas te les prêter la prochaine fois parce que là il faut que je les chronique sur un autre média donc je peux pas te les prêter. Et c'est bien. En plus il explique que techniquement ça a pas demandé trop d'efforts non plus parce que les zones de gris étaient déjà faites, donc les ombres, les lumières étaient déjà faites. Il a juste eu à caler en incrustation des couleurs qu'il aura faites sur Photoshop par dessus. Donc là il y a pas de souci.
Bon. Tu lui donnes... Après c'est pas un festival de couleurs. Hein.
C'est plutôt des tons rompus on va dire. Hein, ouais.
C'est super joli, ouais.
Ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment, en plus, le dessin est béton, l'histoire, c'est la même, hein, donc, voilà, c'est
quotidien. Et je trouve que la scène de la Magical Girl a encore plus d'impact, avec rose fluo, comme ça.
En plus, c'est bien parce qu'il y a des nouvelles couvertures originales par l'auteur qui sont vraiment superbes.
Oui.
Qui ornent les couvertures. Donc voilà, Freak Squeal.
Ça fait plus d'ailleurs affiche de cinéma du coup.
Oui. Alors Freak Squeal, il y a 4 tomes édités en version couleur. Donc toujours sur le label 619, ça s'appelle Freak Squeal. Donc c'est la version Terrificolor, comme il dit. Donc voilà, toujours Florent Maudou au scénario et au dessin. Et parallèlement à ça, on en a parlé dans l'interview. Donc c'est Souria qui s'empare du dessin, toujours sur un scénario de Florent Maudou, c'est Freak Squeal Rouge. Et c'est un spin-off qui se passe avant la série principale et ça suit l'enfance de Chong Mao, donc l'héroïne chinoise et toute voluptueuse et qui apparemment serait calquée sur la petite copine de l'auteur.
Sur la pochette, elle fait pas tellement asiatique, on va dire.
C'est vrai, les yeux sont pas très bridés, mais on reconnaît son corps tout à fait magnifique.
Les formes sont rebondies.
Oui. Plutôt par rapport à ça. Pareil.
Je vais encore avoir des emmerdes avec l'équipe de Lille.
Et donc il explique dans l'interview pourquoi ça s'appelle Rouge. Alors là par contre c'est rigolo parce que on est très très loin de l'univers des super-héros. On voit qu'il y a des personnages avec des pouvoirs dedans. Par contre, c'est vraiment cette quotidienneté du récit, comme on peut le voir dans beaucoup de séries animées, de mangas, de japanime, pardon, ce qui se passe dans les lycées avec la petite sonnerie, voilà.
Tu fais vachement bien.
Et tu vois,
tu fais vachement bien la sonnerie d'école.
Ouais, merci du fond du cœur. Et voilà, donc on retrouve cette ambiance manga, c'est un trait assez féminin, tout en hachure et en délicatesse. Le dessin tabasse moins que celui de Florent Maudou, mais c'est pas mal pour ceux qui aiment bien les personnages. Oui, il y a un iPhone dedans.
Il y a un iPhone dedans, je tiens à le préciser. Je n'en dirai pas plus.
Voilà, la pagination est assez importante, hein, puisque c'est un album qui fait 128 pages quand même, avec un rendu aquarellé, un plaquage de texture déjà qui est pas dégueu. L'histoire est moins rentre dedans hein, que la série principale, c'est vraiment plus la nana, elle est pas très bien dégrossie encore, elle est pas encore sûre d'elle, elle porte des tenues vestimentaires et des pulls qui masquent vachement ses formes, alors que dans la série principale c'est une bombe sexuelle finie cette nana, accro aux armes, là on voit qu'elle manque de confiance en elle a pas fini son apprentissage des arts martiaux, donc elle a encore beaucoup de comptes à rendre par rapport à sa maîtresse d'armes. La couverture, on en parlait tout à l'heure, est absolument splendide. Il y a un beau potentiel dans cette série spin-off.
C'est très étonnant en tout cas parce que c'est vraiment un rendu manga, hein, pur et dur dans le trait, et il y a ce crayonné et tout ça qui fait un petit peu fanzine.
Alors, je pense que ça séduira plutôt pas mal un public féminin. Une série par contre graphiquement nettement en deçà de la série principale, je vous suggère de commencer quand même par la série principale. Si vous voulez pas mettre trop, peut-être que c'est le prix est un peu élevé, vous pouvez commencer par la version couleur peut-être si vous êtes pas féru d'expérimentation au niveau des objets. Sinon, vous pouvez vous procurer la série originelle avec la pagination en noir et blanc et en couleur qui était quand même la version, on va dire, director's cut hein, de l'auteur, voulu par l'auteur à la base. Voilà, donc Freak Squeal Rouge, toujours sur le label 619 d'Ankama, scénario de Florent Maudou et dessin de Souria. Voilà, Souria, dont c'est un jeune auteur dont c'est la première bande dessinée.
Vous êtes @radio-fmr, faudra que tu t'es trompé dans l'identifiant, dans l'identité du réseau social. Il est 12h37 minutes 22 secondes 976 millième sur l'horloge atomique de la radio.
Oh, c'est précis.
Et la régie pub me fait la gueule. Eh ben non, je vous promets, je la passe.
Hey, tu viens à la 16e édition de Traverse Vidéo du 13 au 29 mars ?
Histoire S !
Une programmation de vidéos expérimentales, des installations, des expositions, des performances. Partout dans Toulouse et gratuitement, au lycée des Arènes, Cinémathèque, Musée des Abattoirs, Chapelle des Carmélites, Goethe Institut, UGC, Hostal Occitania, Epitech et SAM, Centre culturel Bellegarde. Du 13 au 29 mars, www.traverse-video.org.
Histoire S !
Ceci est un message de propagande à l'attention de toi, public auditeur.
Progression présente...
La semaine du rock !
Durant une semaine, du 25 au 31 mars, le Rock Invest Toulouse dans 8 salles différentes avec 25 groupes locaux. Retrouve toutes les infos sur Facebook, la semaine du rock officielle.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Oui, il fallait revenir. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé ce jingle, donc tu l'avais pas, t'avais pas tilté. Bah oui, le jingle des fins de pub, tu sais là.
Ouais, mais j'ai entendu.
Bon, on continue du sport. Après, ces voix féminines va nous parler de.
Allez, là, c'est plus du burnet là. Hein.
Du burnet, ouais.
Et du pas mettre devant tous les yeux. Hein.
Non.
Ça peut être plaire à Morgan, ça tient.
Ouais.
Ça y est, je me fais une réputation. Je suis là depuis une heure. Et...
Ouais, même pas.
Même pas.
Allez.
Alors, The Boys, tome 17 déjà, qui est sous-titré
L'âge de la maturité.
Le fils du boulanger. Et ça va paraître vachement bizarre.
Il y a Roger Hanin dedans ?
Parce qu'en fait, pas du tout. Le temps que ça monte au cerveau.
D'accord.
Quoi. Pas du tout. Parce qu'en fait, Garth Ennis continue dans son historique approfondi des personnages.
Et là, enfin, c'est Butcher.
Là, enfin, on en arrive à Billy Butcher. Et comme c'est le chef de la bande, comme c'est le type qui a, on va dire, le caractère le plus ambigu qui soit au niveau des personnages qui composent
le plus
la bande des Boys, il fallait donc que ce soit plus épais.
Et là, c'est
plus épais que les autres pour raconter un petit peu son background. Et c'est à l'occasion d'un voyage en Angleterre où il va rendre visite, il va rendre ses hommages, on va dire, à son père qui vient de mourir. Donc, il va enterrer son père. Qu'il y a des flashbacks qui sont très nombreux au sujet bien de l'ensemble de la vie de Billy Butcher.
Et c'est un double deuil, parce qu'il y a quelqu'un qui lui était, ou quelque chose, ou un être qui lui était très cher dans le précédent numéro qui meurt aussi.
Tout à fait. Okay, On en apprend un peu plus, d'ailleurs, dans ce numéro. On apprend vraiment quelle est la vraie raison, la haine viscérale qu'il a contre les super slips, et surtout un super slip en particulier.
Oui. Bon.
Vous voyez de qui il s'agit,
bien sûr.
Vous avez compris.
Voilà.
Ok.
On sait que c'est grosso modo quel était le personnage en question.
Voilà. Et donc, comme c'est expliqué visuellement, on va dire que.
Oui. Hein, ils connaissent pas l'ellipse dans cette série.
D'accord. Hein. Ils ne connaissent vraiment pas les limites. Tu l'as dit, mon gars.
D'accord.
Ouais. Ok. Donc là, c'est illustré, on va dire, pratiquement quelle est la vraie raison. On apprend aussi son background et tout. Alors c'est vachement marrant parce qu'ils font un jeu de mots et tout sur Butcher et sur le fils du boulanger. Parce qu'en fait, son père était boulanger, mais il s'appelait Butcher, donc tout le monde se foutait de sa gueule. Et comme c'était un sacré connard, il tapait sur la gueule à tout le monde. Et il y a aussi un petit peu l'analyse, un petit peu tout au long hein, de ce retour en arrière, de ce retour aux sources, de cette remémoration de la part de Billy Butcher de son enfance et de sa vie passée, de savoir si c'est vraiment son père qui lui a instillé le gène du mal, pourquoi Billy Butcher, à un moment donné, bien lui cherche plus qu'à faire le mal, en fait, c'est-à-dire à se venger. Tout ça, vous le saurez donc dans ce numéro 17 de The Boys, avec le retour au dessin de Darick Robertson.
Ah, oui.
Pas mal. Hein. Bon, enfin, moi, ça m'a pas gêné que ce soit les autres. Hein. Pas du tout, hein, parce que bon, c'était quand même un dessin assez similaire. Et donc, toujours Garth Ennis, bien sûr, au scénario. Le fils du boulanger a eu un tout petit peu plus cher que les autres, quoi. Mais enfin,
parce
bon,
qu'il y a plus de pages.
On est vachement gagnant. Et il y a même une autovanne, je sais pas comment on dit, à un moment, parce que bon, il y a la scène avec, tu l'as reconnu, c'est la légende.
Oui, et là, il est donc jeune, avec des cheveux.
Oui, avec des cheveux. Là, il est en train de bosser pour Victory Comics et tout. Puis il répond au téléphone. puis la standardiste lui dit gare tennis sur la 2 monsieur. Et puis la légende qui répond dites-lui d'aller se faire foutre, pas de rose beef chez Victory Comics. Tu vois, c'est la vanne qui va bien.
L'autocitation.
Ouais, l'autocitation. Enfin, en plus, ça détend bien parce que par rapport au reste, quoi, je veux dire, qui est un petit peu quand même tendu. On va dire, ça fait du bien d'avoir des vannes comme ça de temps en temps. Voilà, tout ça donc dans The Boys numéro 17.
Morgan, tu connais The Boys?
Oui. Là, par contre, je connais mieux. Parce que sur le précédent, j'étais moins calé. Mais ouais, j'en ai. Pas lu un en entier, je m'en tirerai aussi, c'est vrai, là je vais complètement me griller, mais si je connais, et ça me fait penser à, alors là vous allez tous me sauter dessus, mais à la série Dexter en fait, je sais pas si vous connaissez.
Oui,
non pas du tout.
Ouais, dans un autre registre, mais ça me faisait penser à ça, cette vengeance en permanence, ce mal... cette bataille contre soi-même et à la recherche de réponses.
Oui, sauf que le Dark Passenger, il est totalement assumé.
D'accord. Hein,
c'est,
voilà. Il est nettement plus loin.
C'est moins américanisé. Ouais. Ça passera pas à 20h50 sur M6.
Mais du sport que vois-je là, c'est une bonne vieille franchise sortie des cartons. Elle doit bien dater des années 60.
Fin des années 60, en fait. 69, exactement. Steve Englehart et un certain Frank Frazetta au dessin, donc au départ crée le personnage qui sort en noir et blanc.
Ouais.
Non, vous vous rappelez pas, vous étiez trop jeune.
Voire pas né. Hein.
Donc, en noir et blanc, donc 69, quoi, c'est la date de parution. Ah, je crois qu'en France. En France, c'est sorti un peu plus tard. C'est sorti 3 ans, 4 ans plus tard. Alors donc, au bout d'un moment, on a un petit peu laissé tomber. Il y a eu quelques tentatives au fur et à mesure des années 80, dans les années 90. Et là, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on réédite déjà les éditions originales, c'est-à-dire de Frazetta, puis tous les dessinateurs qui sont suivis par la suite. Et c'est quand même des grands noms hein, qui ont fait du Vampirella. Et il y a également les petits jeunes, les petits nouveaux qui se disent tiens, on va s'essayer un petit peu à Vampirella. C'était quand même la nana quand elle était plus jeune, tu vois, on la regardait. Puis pas forcément pour la qualité du dessin non plus, mais quoi.
Et alors c'est qui ces petits jeunes?
Et quand vous avez deux petits jeunes qui s'appellent Grant Morrison et Mark Millar, ensemble. Scénario ensemble.
D'accord.
Ils se disent on va faire du Vampirella, on se dit ah ah, voilà qui est intéressant. Alors en fait ça c'est sorti, ça a été édité en 2010 version américaine et c'est sorti l'année dernière en version française chez Panini Comics.
Mais dis-moi, il y a une vague de mode sur Mark Millar en ce moment, suite à Kickass, là, parce que ça fait toutes les semaines que tu nous présentes un nouveau comics de Mark Millar, là.
Ah, je vais pas dire qu'il pisse la copie, quoi, parce que toujours d'excellente qualité, mais c'est un petit peu un touche-à-tout. Et en fait, on peut dire presque que tout ce qui touche se transforme en or, ou pratiquement. Hein. C'est vraiment pas mal.
Je pense que les distributeurs français doivent se dire, mais il y a plein de BD, ils sont inédites chez nous, on va tous les éditer.
Oui, peut-être. Enfin, il y a quand même un certain choix qui est fait, à mon avis. C'est pas mal parce que il y a deux grosses histoires. Hein. Alors, c'est quand même assez énorme, deux grandes histoires qui font plus de 70 pages. Toutes les deux scénarisées donc par Mark Millar et Grant Morrison et dessinées par Amanda Conner. C'est ça qui est assez intéressant, c'est une nana qui dessine aussi Vampirella, Steven Grant aussi au dessin. Et en fin de volume, on a deux histoires qui sont assez courtes, qui font 10 pages et qui sont chacune scénarisées par Grant Morrison ou Mark Millar, chacune des deux. Donc, on peut dire que c'est quand même des histoires assez intéressantes. Alors, on reconnaît un petit peu la patte de Morrison, la patte de Millar. C'est assez rigolo parce que c'est pas du tout la même chose. Hein, ce que ces mecs scénarisent, la façon dont qu'ils ont de voir les choses. Et bien sûr, il y a les passages obligés. Et bien sûr, il y a la tenue de Vampirella. Ça, vous vous en doutez bien. Alors, la tenue classique revisitée, on va dire, hein, d'accord. Alors, vous voyez bien.
Il fait toujours très chaud là-bas.
Minimum. Ouais.
Je suis du mauvais côté de l'argile.
L'attitude de la nana,
Oui, voilà, un peu rock'n'roll, quoi. Hein,
tu vois, quoi. Ouais. Ça répond à ta question. Oui. Ok. Ensuite, on a
une autre tenue.
obligé, le truc obligé quand même, parce qu'il faut remarquer quand même dans la plupart des séries de comics où c'est des nanas qui sont les héroïnes, même dans les autres d'ailleurs, eh bien, modernisme aidant et puis on va dire libération sexuelle aidant, il faut au moins qu'il y ait une scène de douche.
Ah oui.
On est d'accord.
Très bien.
Une scène d'accord. Ouais. Donc, eh bien, scène de douche.
C'est très radiophonique ce que tu
pas
fais.
Pas mal, quoi. J'allais pas mal. Mais vous remarquerez que elle se douche pas à l'eau. C'est une vampire, je rappelle. Oui. Elle se douche avec du sang.
Et puis on peut voir qu'il y a une inventivité du point de vue du dessinateur. Hein.
C'est pas mal, hein. Dans le contre-plongée. C'est vraiment pas mal.
À montrer alors, dans les écoles de dessin.
Hein, ouais. Alors il y a également la variante vampire classique, on va dire, hein, c'est-à-dire avec la cape et tout le truc, quoi. Là, on va dire qu'elle est plus habillée que d'habitude.
Plus du latex, là.
Hein, ok. Et dans les deux dernières parties, c'est-à-dire dans chaque partie des deux petites mini-histoires, l'une de Mark Millar, l'autre de Grant Morrison. Alors là, ça dépote à fond les manettes, quand même, on va dire. Hein. Ça, c'est ce qui veut dire que le bouquin est réservé quand même à un public assez averti. Tout d'abord, des jeunes filles ensemble, dont
bien sûr.
Et le summum, quand même, pour la fin, c'est-à-dire la pose super suggestive de Miss Vampirella.
Tiens, vous avez vraiment l'esprit mal tourné.
Oui, je vois pas pourquoi, parce que là, franchement,
des positions en plus très naturelles, que toutes les filles ont en général, qu'elles devraient avoir plus souvent d'ailleurs.
C'est une souplesse naturelle, c'est voilà. Chez les femmes. Okay.
Bon, alors ça, c'est pour la partie visuelle.
Amis auditeurs, si on ne vous a pas donné envie de lire la BD quand même, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Hein.
Voilà, alors je peux dire.
Je sais, quand même.
Ah, il a fallu quand même cette alerte.
Registration sonore, mais c'est parfait, alors, voilà, là on est dedans.
Non, 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 ce que je voulais dire, ce que je voulais rajouter.
Je peux me permettre.
On est dedans, oui, d'accord, je la note.
C'était pas fait exprès du tout. Hein.
Ce que je voulais juste rajouter, c'est que c'est. Outre l'aspect visuel, on va dire, qui est assez intéressant pour les garçons. On va dire les filles, ils trouvent également leur compte, à mon avis, vu l'histoire, vu les deux scénarios qui sont écrits par Morrison et Millar ensemble. Sur les deux grandes histoires, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ça dépote pas mal quand même, faut dire, il y a plein de sang, quoi, ça c'est clair. Et on en apprend pas mal, en fait, sur Vampirella, c'est-à-dire quelle est son origine, d'où elle vient, pourquoi elle fait ça, quel est son but dans la vie, tout ça. C'est très très bien expliqué.
Pourquoi elle s'habille comme ça aussi?
Non, pas du tout. Mais je pense que c'est parce que sur leur planète, ils s'habillent tous comme ça, quoi, à mon avis.
C'est où leur adresse?
Bah, c'est sur la planète Draculon.
On y va comment?
Ça, je sais pas.
Il y a une navette, il y a quelque chose, il y a comment ça marche?
Non, parce qu'à l'origine, Vampirella vient donc de la planète Draculon et sur leur planète, bon bah ils se nourrissent de sang, mais par contre, le problème c'est qu'à un moment donné, quoi, la source de sang starie et au même moment, il y a une planète une navette spatiale terrestre donc qui atterrit sur cette planète et ils se rendent compte que les humains ont du sang sur eux et donc c'est pour ça qu'ils décident d'aller visiter la Terre pour essayer de choper du sang du côté des humains.
Ah là là.
Voilà, ça c'est les origines. Ok. Bon, alors donc je recommande quand même chaudement ce Vampirella. Donc c'est les Master Series. Alors justement Master Series, il y a plusieurs tomes, il y a plusieurs numéros et vous pourrez trouver et les anciens, c'est-à-dire les classiques de Vampirella et les nouvelles moutures, dont celle de Grant Morrison et Mark Millar, dont je viens de vous faire la chronique. Alors c'est paru bien, chez Panini Comics.
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont repris le logo à la vintage, avec la vieille typo. Manque des années 60,
dégouline un peu,
très graphique. Ça, j'adore.
Ah, ils sont obligés, c'est la marque déposée, donc ils ont pas le choix.
Tu casses tout.
Ouais, puis en plus ça, non. Puis en plus c'est dans l'esprit du magazine dans lequel ça sortait, les creepy, les trucs comme ça, quoi. Donc ça le fait bien, quoi.
Bon, je vais aller faire des trucs pour enfants. C'est difficile de faire une transition.
Cool.
Passe un morceau de musique alors.
Oh non. Mais là, je viens de me distraire. Sans je viens transition. De pirater un compte Facebook encore. Hein.
Oui.
Pensez à les fermer quand vous sortez du studio le soir bourré, hein, quand même. Oui.
Avis à l'équipe du vendredi soir sur la radio. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez marquer des trucs sur le mur.
Je vais fermer par politesse.
Ah, déjà, c'est fermé.
Oui, 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 je viens de le fermer quand même par politesse.
T'es pas drôle.
Non.
Je ne suis pas drôle. Et là, on va faire un petit peu de ludo éducatif pour les enfants. C'est la Wikipanda de Ced qui est...
C'est quoi la femme nue que t'as sur ton écran derrière?
Non, merci.
C'est pour illustrer la rubrique.
Wikipanda, donc encyclopédie animalière farfelue, le premier tome donc de la nouvelle série de Ced est arrivé chez Macaca Édition. Et c'est un truc idéal pour les enfants, pour les sortir un peu de la télé. Bah oui, il y a souvent on scotche les enfants devant les documentaires animaliers quand on sait pas quoi faire et tout ça. Alors la raison est simple, c'est beau, c'est mignon, c'est éducatif et il n'y a pas de risque qu'ils voient des scènes d'accouplement. Pas ce type de documentaire là.
Encore, hein.
Bon, alors il y a franchement aucune raison, aucune chance de voir des meurtres sanguinolents avec des carnassiers qui éviscèrent leurs victimes. Et à part les attaques de tigres, de loups, de requins, ou encore de vues de cadavres se décomposant, tripes gonflées à tout vent avec des insectes qui y grouillent dedans. Excusez-moi. Bref, on colle souvent les ch'tis d'enfants devant un docu animalier sur Abbé Animaux. En tout cas, beaucoup plus souvent que devant 13e rue ou Planète Justice. Enfin, ça, je pense que vous l'aurez compris, hein, ceux qui ont des enfants et tout ça, patin couffin. Le problème, c'est que du coup, les enfants, ils posent tout plein de questions sur les animaux. Et du genre, archi pointu, que l'on ne sait pas comment répondre. Heureusement, Ced a sorti un livre bourré d'informations très intéressantes et très pertinentes et très instructives sur les animaux. Une bande dessinée éducative qui remplacera avantageusement la consultation de la Wikipédia. Oui, parce que la Wikipédia, c'est sur Internet, et Internet, c'est plein d'alcaïdistes cyberpédophiles qui piratent la culture, et en plus, c'est plein d'approximations. Alors que le livre de Ced, non, pas du tout. Et j'ai moi-même appris plein de choses sur le requin à clé USB et les dangers du patin chez le caméléon. Tenez, par exemple, moi je savais pas qu'il y avait des vrais Pokémon qui sont capables de vous faire très 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 mal, ou que la coprophagie a sauvé la koala de la disparition dès la première génération. Ou encore que les relations incestueuses entre un rat et une canne a donné une nouvelle race d'animaux. C'est toujours très éducatif, et je suis sûr que ça va donner plein d'informations très très pertinentes pour les gamins, pour qu'ils posent la même question auprès de leur maître et de leur maîtresse. Bon, alors, vous faites pas piéger par le dessin très mignon de Ced, c'est franchement pas pour les tout-petits, évidemment, c'est à pleurer de rire, comme d'habitude. Bref, ça y va sévère, comme d'hab. Wikipanda, encyclopédie animalière farfelue, le premier tome donc est sorti chez Macaca Édition. Et Ced est, et comme disait Thomas en antenne, le régional de l'étape.
Oui, c'est ça. Ouais,
il a ton numéro perso, donc tu te démerderas avec lui.
Voilà.
Mais bouquin amusant, 48 pages, couleur classique, bref, très fun et vraiment très très drôle. Je vois qu'ils s'en instruisent, ça les change.
J'ai ouvert une page au hasard tout à l'heure et j'étais mort de rire. Vraiment, sincèrement. Enfin, ça s'est pas entendu, mais...
Comment rester... il essaie de sauver le coup.
Je sais rester discret. Non, mais il y avait une illustration, voilà, je l'ai retrouvée, page 18, si ça intéresse quelqu'un, de comment les animaux nous voient. Et alors, pour moi qui ai eu un chat et un chien... Je confirme, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une image, voilà, avec un homme sur son canapé, et puis un salon.
Une plante verte.
Ah, une plante verte, exactement. Ouais. Alors donc pour le chien, l'homme c'est le maître du monde, la jambe c'est le partenaire sexuel, et tout le reste c'est des jouets, le lit, le repas du non-chien, donc pour le chat. Et alors pour le chat, c'est la même image, mais c'est totalement différent. C'est-à-dire à peu près tout, il y a marqué grattoir, à moi, toilette, à moi, humanoïde. Griffoir, voilà, et je trouve ça vraiment très, très juste.
Et tu ne diras pas qu'il y a le dessin en dessous qui est encore plus drôle, voilà. Allez, petite coupure musicale, vous écoutez le supplément week-end numéro 341, et on va pas plonger dessus dans les années 80, ce sera juste après. Neruda, featuring Lee Harvey, Lap Dance.
Quick on the draw, something you never seen before.
You've never seen.
And I hear a motherfucker that come in my face. I got something chrome. And I got it from home.
And I got it from home.
And it ain't a microphone.
It ain't a mic.
And I hear a motherfucker that come in my face. It's so real. How I feel. It's just insane. That makes a nigga wanna kill. I'm just straight ill. Right if I'm on a cycle down the street. Sounding like strippers to me.
Oh baby you want me. Well you can get this lap dance here for free.
baseball bats.
Baseball bats.
I got something for that.
I got something for that.
It goes black like a cat.
You know what that is.
So I get a motherfucker to come in my face. So real. How I feel. Is this society that makes a nigga wanna kill? Or just straight ill? Riding my motorcycle down the streets. While the government is kinda like strippers to me.
Of a Harley, blue denim, spike wrist and Carby, flat screws and tattoos, that's all me, two blondes, four balls, feeling like Fonzie, you can find me drunk, whipping in my crash, or find me chilling with crackers you like trash, find me in court, smoking that nice grass, burning the flag, all in the name of white trash, it's Harley, baby, Christ on the arm, I'm gnarly, baby, fuck with me, not Harley, baby, and you know the flow, ungodly, baby, so this party, baby. Chicks nickname me pilot, they get high off my dick. I take them to my home, they call it the cockpit. Time for take off, they pennies, they drop quick. Now that's first class, fucking ain't that some fly shit.
Nerve de featuring Lee Harvey Lap Dance. Ah pardon, Lee Harvey and Vita, c'est extrait de l'album No One Really Dies.
C'est bien, tu changes ton registre musical, Xavier.
Allez.
Ah, je croyais que tu mettais le reboot.
Espionnage, SF, comédie, espionnage. Allez.
Vous venez d'assister à un mix sur ordinateur.
Allez, aujourd'hui, on vous parle d'un film que ça fait longtemps qu'il est sorti, mais grâce à...
Et il est même plus à l'affiche en plus, quoi.
Si, il est à l'affiche. Heureusement, grâce aux Oscars, il ressort. Parce que je suis allé le voir hier soir.
Ah bon, d'accord, ok. Parce que j'ai regardé cette semaine, je me suis dit, tiens, il est plus à l'affiche.
Mais en VF.
Damned. Ah ouais, pas pareil.
Alors, il est 13h.
Dans un film où on parle iranien, où on parle américain, à un moment donné, la VO, ça aurait été bien.
Ouais.
Bon, écoute, quand il n'y a que ça, tu vas quand même. Hein. Bon, voilà. Argo, de Ben Affleck.
Que j'ai vu.
Très bien.
Et c'était, ça s'est passé très bizarrement parce que j'étais parti pour voir un autre film, finalement, je m'en rappelle même pas, je sais plus ce que c'était. Et en fait, j'ai croisé des amis au cinéma et finalement, ils m'ont dit, non, viens voir Argo, c'est mieux. Donc, j'avais déjà pris ma place, j'étais rentré et puis, j'ai changé de salle, tout simplement. Et, en VO.
Il a triché.
Et un régal. C'était génial. Je me suis, régalé. Et vraiment. Et je suis très content que Ben Affleck ait eu plusieurs Oscars parce que je pense que là pour le coup vraiment il le mérite et le film est.
Oui, il a eu BAFTA aussi quoi. BAFTA aussi.
Il a eu l'Oscar du film. Il a eu le César du film étranger aussi. Après, est-ce que. Bon. Moi j'ai pas vu les autres films en compétition pour les Oscars. Est-ce que ça valait un Oscar, je sais pas, mais c'est indéniablement un très bon film. On va le démontrer. Alors, un film de et avec Ben Affleck. Casting normatif, hein. Bryan Cranston. Voilà. Yes. John Goodman.
Yes.
Alan Arkin.
Yes.
Kyle Chandler de la série Demain à la une, voilà, merci.
Exact.
Zeljko Ivanek. Bon, lui, on l'a vu dans toutes les séries. Hein. Voilà, le gars un peu dégarni, petit et qui a l'air malade, c'est lui. Victor Garber.
Victor Garber.
Le gars qui jouait avec
Jennifer
avec
Garner.
Jennifer Garner dans Alias. Jennifer Garner, Madame Affleck aujourd'hui.
Daredevil peut-être, non, je ne sais pas.
Oui, Victor Garber, c'était le papa de Sidney Bristow dans Alias. Adrien Barbeau. fait longtemps que j'avais pas vu ce nom dans
rappelez-vous Fog.
Fog, New York 97, voilà. Michael Parks aussi qui joue dedans, voilà, très, très bien.
Dark Maul.
Non, lui c'est Ray Park. Michael Park, ouais, c'est, Park ouais. c'est lui qui fait les doubles rôles dans les films de Tarantino aujourd'hui. Voilà. Alors, ça se situe le 4 novembre 79 au summum de la révolution iranienne. Des militants envahissent l'ambassade américaine de Téhéran et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, 6 Américains arrivent à prendre la fuite et à se réfugier dans la demeure de l'ambassadeur du Canada. Et les gardiens de la révolution iranienne ne savent pas qu'ils sont là-bas, mais ils vont peut-être le savoir parce que dans la précipitation, les membres de l'ambassade américaine ont cru bon de déchiqueter les documents officiels. Mais c'est sans compter sur l'armada
les
de petits
mains.
Enfants iraniens qui vont recoller une à une chaque
lamelle.
Eh oui. Alors, sachant qu'ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de l'exfiltration de la CIA, du nom de Tony Mendez, monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays.
Alors, on le dit quand même, c'est vraiment ce qui s'est passé.
Ben oui, c'est inspiré d'une histoire vraie, tout à fait. Et donc, ce plan, complètement fou, vise à donc monter de toutes pièces une production hollywoodienne de science-fiction. Et faire passer donc les 6 otages, enfin les 6 Américains qui sont cachés dans l'ambassade canadienne pour des membres de la production.
Ouais. Mais ils ont fumé.
Alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que le film est divisé en deux parties, enfin trois parties, une introduction avec des images d'archives justement où on voit la révolution iranienne et tu vois que c'est assez costaud, assez brutal. Deuxième partie plus comique où on voit pour que la production
les deux producteurs hollywoodiens
c'est absolument génial.
Ils sont géniaux, c'est le côté humoristique du film et ils essaient de monter de tout, ils sont chauds, ils sont dedans. C'est risqué pour eux mais ils s'en foutent, ils y vont, ils ont du fric et ils sont pas
c'est le nio
avec... ils ont du fric, c'est la CIA qui paye.
Mais la CIA qui même elle à l'intérieur n'assume pas vraiment et tout le monde n'est pas au courant, enfin c'est un plan qui est quand même assez
comme d'hab.
Spécial. Oui, non.
Comme d'hab, on est en plein financement des contrats et tout ça.
En fait, il y avait en compétition trois projets pour exfiltrer les 6 Américains. Il y avait un projet pour les faire sortir à vélo, un autre pour les faire passer pour des profs et une autre pour les faire passer pour les membres de la production d'un film de SF. Et donc c'est le film de SF qui a été choisi. Alors on voit dans la première partie effectivement parce que s'il y a pas de plan de financement crédible avec une affiche et puis que la presse en parle mais sans être au courant, il faut absolument développer ce projet. Donc il va être développé par des as de Hollywood et pour que ce soit crédible, il faut que ce soit fait dans les règles. Ils vont aller contacter tel financier et tout, des chefs de casting, voilà, les scénarios. Mais c'est un vrai scénario qui traînait dans le bureau du producteur.
C'est le nom du film, vient de là.
Voilà. Productionnel en plein dedans, quoi.
Voilà.
Alors, on l'a ressorti. Laisse-moi deviner, en ce moment, il y a un truc qui cartonne, là, du côté de la Fox. On y va.
Et alors, en plus, t'as le festival de costumes qui est vraiment dans la post-Star Wars, mais avec tout ce que ça comporte de cheap.
Pardon.
Alors, t'as les costumes qui sont rutilants.
Quand ils font la lecture, ça.
Ah oui.
Oh là là. Tu sens le navet, le gros navet en perspective.
Et alors après que cette partie est un peu laissée de côté pour aller vraiment suivre Tony Mendez, donc Ben Affleck. En Iran, donc là ça prend une autre tournure forcément qui est beaucoup plus noire, hein. Là on voit vraiment le côté tendu, le côté suspense du film, thriller politique à fond. Alors personnellement j'aurais aimé que la partie comico hollywoodienne dure un peu plus, parce que c'est vraiment ce qui m'a vraiment attiré dans le film. C'est vrai qu'après on va plus dans le thriller politique à l'année 70, vraiment engagé, mais ce qu'aime Affleck et ce qu'aime le producteur qui est George Clooney. Donc on va vraiment dans l'essence du film politique des années 70. Ben Affleck il réussit sur tous les tableaux, côté comique, côté
moi j'ai trouvé une transformation physique impressionnante.
Ah, oui.
Je l'ai presque pas reconnu au début. un petit moment de doute parce que quand je suis allé voir le film, j'en avais entendu parler, mais c'est tout. Enfin, je savais pas trop exactement ce que c'était. Et je vois Ben Affleck, je dis, ah, c'est lui, non, c'est pas lui, ouais, c'est lui. Et puis après, je commence à avoir un casting de fou. Mais ouais, bon, c'est lui, ok, mais il était gros, il était.
Ah oui, là, il a pris du poids.
Et puis en plus, on a pas l'habitude de le voir comme ça.
Et puis en plus, on l'avait laissé dans son précédent film, ouais. The Town, où il était vraiment plus affûté, le crâne rasé, barbe de 3 jours. C'était vraiment le gars d'action. Et là, c'est vraiment le. Voilà,
le mec, il y a des problèmes avec sa femme, sa fille, je crois, qui vraiment c'est dur pour lui, c'est une sale période, il boit, on n'a pas l'habitude de le voir, mais ça lui va bien.
Ah oui, ça lui va bien. Et puis là, tu vois que c'est un putain d'auteur, et on avait laissé avec Daredevil, toute cette partie de sa filmo où on voyait
Armageddon.
Il y avait quoi? Il y avait Bernard Bor aussi. Ouais. Les merdes qu'il avait faites, bon voilà, quand il avait repris le rôle du héros de Tom Clancy aussi, La Somme de Toutes les Peurs, je crois que ça s'appelait le film. Donc voilà, c'est une période un peu on parle même pas de Paycheck, ce film n'existe pas, qui n'a pas absolument pas été réalisé par John Woo.
J'y pensais, mais je voulais même pas le citer, tu vois.
Voilà.
Donc, mais par contre, dans les seconds rôles, c'est-à-dire quand il fait des apparitions dans les films d'autres, là, il n'y a pas de problème, quoi. Même pendant cette période que tu as citée, là, il se permettait d'être bon, d'être excellent et tout. Je me rappelle dans Smoking Ace de Joe Carnahan, il fait une apparition assez remarquable, quelques scènes. Bon, bah, il se fait dégommer assez vite au début, donc c'est pour ça qu'on voit plus. Mais où il est vraiment excellent, où il est
ben
vraiment
Affect, si tu nous écoutes.
Très, très bon.
Continue. Alors, donc, sinon, bon, le style, on a commencé à en parler. Hein, alors, par contre, ce qu'il y a de bien avec Affleck, c'est qu'on avait vu aussi dans The Town, c'est, alors lui, il traite un sujet et il fait pas de fioritures, c'est-à-dire brut de décoffrage, on va bille en tête dans le sujet. C'est les années 70, ça y est.
Le look, wow.
Le look, dedans, au niveau de la mise en scène, t'as pas de côté un petit peu des figures de style sophistiquées comme les ralentis et tout, dont lui il connaît pas. Il faut que ce soit brut, c'est proche du documentaire, du reportage.
On a un grain qui est vraiment, on n'est pas du tout dans ce qui se fait en ce moment avec des images très nettes, très retravaillées. Non, là on est sur quelque chose de brut, et même la façon dont c'est filmé, caméra au point, ce côté immersion un peu
et sans shaky cam comme on a aujourd'hui avec les bournes, c'est-à-dire on n'a pas la caméra qui va dans tous les sens. Ouais. Certes, elle est un peu bousculée, mais c'est vraiment le reportage où on vous montre ce qu'on filme, et il faut que ce soit clair, net, sans bavure. Donc de ce côté-là, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment premier degré à fond. Alors tant qu'on en parle de la forme, le film s'ouvre sur un générique, c'est du storyboard. Donc tu te dis, en fait c'est une voix off d'une nana qui raconte le contexte sociopolitique de l'Iran avec la chute du chat, la révolution islamique, le fait que le chat, c'est ça qui précipite les émeutes, c'est-à-dire que le chat est exilé aux États-Unis parce qu'il traite un cancer, la population veut le lyncher absolument pour faire une parodie de procès, donc c'est ça qui déclenche justement les émeutes, et c'est raconté à travers des storyboards. Tu comprends après pourquoi, c'est les storyboards animés, puisque c'est sur la production d'un film. Le film s'ouvre sur le vieux logo de la Warner.
C'est vrai.
La typo du film Argo, c'est une vieille typo, voilà. L'affiche du film, là on est complètement dans Star Wars. Et la fin, c'est un long travelling dans la chambre du fils du personnage principal, et c'est une ode au merchandising de Star Wars.
C'est ça.
Et c'est le festival de gros plans où on voit Chewbacca, mais le vrai merchandising.
Ouais.
Et ça se finit sur un extrait du storyboard d'Argo, le faux storyboard. Et en fait, ça délivre le message suivant, c'est que les États-Unis ont procédé à une exfiltration Century pacifique, où ils ont utilisé les artifices du cinéma à des fins, on va dire, pour sauver des vies.
Ouais.
Et donc, c'est quelque part, ça retrouve la magie du cinéma, où c'est, certes, on vous vend du rêve kitsch, de la SF, avec des monstres à gogo qui sont complètement pourraves, mais aussi pour exfiltrer six vies américaines. Et c'est là que, finalement, le charme de la SF a participé à ça. Donc, c'est un petit peu un sous-texte, un peu naïf et un peu vraiment positif.
On reste quand même sur du film vraiment américain, on va rétablir la vérité, mettre en valeur nos héros. Bon voilà, on est quand même sur
avec oui, et puis comme c'est inspiré d'une histoire vraie, on voit le texte qui s'écrit, que sont devenus les personnages, que le personnage principal on lui a remis une médaille, mais comme l'opération devait être tenue secrète, il l'a récupérée 30 ans après. Il a même pas pu parler à son fils qu'il a vu une médaille aussi d'intelligence mérite. Donc voilà.
Le plus haut, je crois, la plus haute récompense qu'on puisse avoir.
Tout à fait. Donc voilà, donc c'est, ce film traite aussi de d'un partenariat exceptionnel entre le Canada et les États-Unis. Alors le l'ambassadeur du Canada, c'est Victor Garber qui le joue très bien. Alors le défaut des qualités du film, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie, et quand tu vas voir le film, si tu t'es un peu documenté avant, tu sais comment ça finit du coup, puisque ça raconte l'histoire vraie d'une exfiltration qui tourne bien. Donc c'est vrai que tous les coups de mise en scène à la fin où on se fait croire qu'il y a une tension et qu'ils vont pas réussir à s'échapper de l'Iran, ça tombe un peu à l'eau, parce que tu sais très bien qu'ils vont s'en sortir. Donc tu vois, c'est un peu vain, mais... Voilà, c'est un peu là où le bas blesse dans les reconstitutions, où tu vois, tu es au courant de l'histoire d'origine. C'est comme dans Invictus de Clint Eastwood, où il te fait croire qu'il va y avoir un attentat au dernier moment de l'avion qui va s'écraser sur le stade, et puis tu sais très bien que ça s'est pas passé en vrai, donc tu y crois pas trop. Voilà, bon, c'est il tombe un peu dans, bon, on peut pas aller vite.
C'est pas évident, c'est une tension qui est pas évidente à essayer de récupérer, justement, puisqu'on a la fin, donc ouais. En suspense, c'est difficile.
Voilà, donc c'est ça un peu, voilà, c'est un peu le défaut des qualités du film. Mais sinon, le film est à voir. De là, lui décerner un Oscar, je ne sais pas. J'ai pas vu les autres films en compétition. C'est un peu l'impression que m'avait laissé Des Mineurs, c'est-à-dire que c'était un excellent film, mais bon, il y avait Avatar en face. Moi, j'aurais pas. Bon, voilà, Des Mineurs, c'était un bon petit film, mais peut-être pas un film oscarisable. C'est mon avis. Voilà, on rappelle la référence du film Argo. Si vous l'avez loupé, de et avec Ben Affleck, c'est l'occasion, puisque grâce aux Oscars, on peut revoir le film qui est ressorti dans certaines salles de cinéma. Mais j'y suis allé pour nos amis toulousains, je suis allé à la Beige hier.
Et merde, VF alors.
Ouais, VF, donc c'est un peu dommage. Il y a des jeux de mots dans le film. Alors toi, tu l'as vu en VO. Qu'est-ce que ça donne quand ils font un jeu de mots sur le film? En VF, ça donne Argo, cube-toi de ton cul. En VO,
oui.
Ça donne
alors,
quoi
que je me rappelle, c'était assez similaire, mais je t'avoue que je me souviens plus, mais c'était fuck, c'était quoi Argo?
Ouais, il y a fuck dedans, ouais, ça c'est sûr.
C'est le producteur qui le dit tout le temps.
Oui, c'est le producteur, c'est la maxime du film, ça se finit sur ça d'ailleurs.
Bon, tu me laisses deux minutes et je te retrouve sur.
Ok, allez, tu nous le ressortiras tout à l'heure. Alors, dans le film, c'est une compilation de BO de l'époque. Je vous ai ramené un morceau de Dire Straits. Ce n'est pas le morceau qu'on entend dans le film.
Il est que à la Beige, effectivement, sur Toulouse. Juste une chose avant d'introduire le morceau. Est-ce que tu peux me certifier qu'on peut aller voir le film sans s'être documenté auparavant sur cette époque-là?
Si vous
êtes. Sourire, il sait où c'est que je veux en venir.
Alors, si vous êtes un peu. Si vous êtes, pour votre culture personnelle, un peu mis au courant de l'histoire de l'Iran avec les chats, parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, c'est Ahmadinejad qui a la. Donc voilà, l'Iran a quand même une actualité assez brûlante. Si on n'est pas au courant, il y a une rétrospective, comme on l'a dit au début du film, avec du storyboard, c'est un peu accéléré. Donc, si vous vous intéressez pas à la politique, c'est un peu ardu. Par contre, si vous avez un background derrière et que vous savez un petit peu de ce qui s'est passé, ça aide.
Alors, vas-y, comment tu as fait ton background? Tu veux pas me dire qu'il y a une bande dessinée scénarisée par...
Alors, officiellement, Mademoiselle m'a demandé hier, mais comment tu fais pour être au courant de tout ça? Je dis, tu sais, à force, tu retiens, bon... Officieusement, je n'ai pas dit que grâce à la BD que tu m'avais prêtée sur l'histoire d'Ahmadinejad, je m'étais fait ma culture sur qu'est-ce que c'était le chat d'Iran avant. Voilà.
Dessiné par Berkovici et scénarisé par Sifawi. Je vais me planter.
Alors, je crois que le titre c'était un jeu de mots sur le nucléaire. Tu feras que tu revois.
Enfin, faudra qu'on le revoie de toute façon, puisque on avait fait une bonne chronique. C'était un excellent bouquin de ce côté-là.
Voilà. Donc on rappelle la référence Argo de 2 et avec Ben Affleck, et le morceau que nous allons entendre actuellement n'est pas Sultan of Swing qu'on entend dans le film, mais un autre morceau de Dire Straits, premier album qui s'appelle Wild West End.
Et pour finir, je dirais Argo Fuck Yourself.
Argo Fuck Yourself, yes. Ok.
From the Barack Obama just another angel in the crowd, and I'm walking in the Wild West End.
Alors on vous explique, on est obligé de couper parce que Sushinette est arrivé en hurlant en disant « Ah dégage, dégage, j'ai une interview dans 20 minutes, rien !»
Ah tu fais bien Sushinette, c'est voilà, totalement c'est bon. Pas ça en fait. On rétablit la vérité quand même. Bon, alors, tu n'es pas hystérique.
Avec les interruptions, j'ai 10 minutes pour vous parler des films de la semaine. Et comme la semaine prochaine c'est la journée de la femme, je sais plus quand
c'est déjà
le 8, donc putain, c'est jambe à jeudi il me semble. Donc on va faire des films spécial journée de la femme, ce soir sur France 3. À 20h45, Marthe Richard de Thierry Binisti, un téléfilm de 2010 avec Clémentine Célarieux et Arnaud Giovanetti, François Berléand et Cassandra Vitou de Kerouval. Eh ouais. Et suivi à 22h20 de Jeanne Devers, de Marcel Bluval avec Léa Drucker, Loïc Corbéry et Myriam Kovacs.
Je suis désolé, Marthe Richard, la journée de la femme c'est la semaine prochaine, mais on est encore les journées de l'homme. Là.
Mais la Jeanne Devers, on la connaît un petit peu moins. C'est une nana qui est entrée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et qui après s'est mise à écrire des bouquins, devenir écrivaine. Voilà. Sinon sur D8 ce soir, il y a également Femme de loi.
Ouais, comme d'hab.
Natacha Hamal, Ygritte Chauvin, voyons quoi. Ou alors sur Énergie 12, Florence Pernel dans Florence Larue, le juge est une femme. Ou si vous préférez la version anglaise, sur Jimmy ce soir, Claire Blake, police criminelle de Londres, avec Amanda Burton. Sinon, il y a également sur Ciné plus Famille ce soir, Joue-la comme Beckham. Vous voyez, j'ai réussi à caser ouais. Beckham cette semaine. Bravo, dans supplément sport. Week-end, qu'on parle même pas encore de sport.
Putain,
elle est
en plus, il
et ça parle de Nana.
Oui, c'est une indienne.
Avec Parminder Nagra, donc Keira Knightley, ouais, et Jonathan Rhys-Meyers.
Et la fille, c'est celle qui joue dans Urgence après.
Voilà, oui, Parminder Nagra.
Ben oui.
Allons.
Alors, sinon, sur Ciné plus Club ce soir, il y a également The Killer Inside Me de Winterbottom. Mais il y a des nanas dedans, Jessica Alba.
Oui, elles prennent cher les nanas dedans.
Mais plastique intéressante. Donc,
Le plastique, là, tu la vois pas beaucoup, celle de Alba.
Tu rates pour la plastique.
À part filles, complètement défoncée du visage, mais.
C'est la journée de la femme, donc. Ou alors demain soir, le blockbuster. Megan Fox dans Transformers.
Ah, là, on y est là.
Voilà. Là, elle prend pas mal, quoi.
Là, on peut parler de carrosserie.
Ou alors.
Je parle pas de Jennifer's Body, je comprends pas.
Ou alors, sur Arte demain soir à 20h45, Coco Chanel de Christian Duguay. Christian Duguay qui nous a déjà fait un film assez intéressant sur Adolf Hitler. Je sais pas si tu te rappelles cette espèce de mini série. C'était Robert Carlyle qui a interprété le rôle d'Adolphe et c'était pas mal, c'était sympathique.
C'était diffusé sur
TF1. Là, c'est avec Shirley MacLaine dans le rôle titre, Barbara Bobulova et Olivier Sitruk. Sinon, demain sur RTL9, l'affaire Karen McCoy avec Kim Basinger qui est pas mal.
J'ai vu, il est très bien, oui.
Val Kilmer, Terrence Stamp, magnifique, bon film de Russell Mulcahy. Gully qui
à l'époque où il faisait encore des bons films, ce type.
Un film de Chris Noonan qui depuis a fait un autre film vachement connu, mais je me rappelle pas lequel. C'est pas grave, quoi. C'est un réalisateur anglais là qui commence à bien cartonner. Et là, c'était Miss Potter avec René Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson, Barry Pattinson, Patterson. Voilà, c'est ça. Ça c'est ce soir sur demain soir sur Gulli ou alors sur Cinéfix Wolfen, mais juste parce que c'est un film de loup-garou qui est vachement intéressant et qui a Diane Venora dedans. Mais il y a également Albert Finet et Gregory Hines. Mais enfin, à l'époque, il était sorti. C'était vraiment un film très très intéressant parce que c'était pas le film classique
de loups-garous, t'as les loups-garous qui vont bouffer de l'être humain, et puis alors donc les êtres humains ils vont se défendre en essayant de dégommer les loups-garous. Non, c'est un truc un petit peu plus intéressant, plus fantastique on va dire comme approche, donc pas mal, et avec les effets spéciaux de l'époque, donc tout à fait magnifique.
Tu vends vachement bien le film, j'ai envie de le voir.
Voilà, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est pas mal du tout quoi. Et tu vois, comme j'ai mélangé mes fiches, j'ai oublié de vous parler des séries, une nouvelle série qui allait passer cette semaine, dont
c'est Journée de la femme encore ou pas?
Non, plus du tout quoi, parce que bon, j'avais aussi une partie série quoi, et je viens de retourner la feuille et puis je viens de le voir. Bon, mais je vous fais pas les séries alors quoi, tant pis quoi. Ah. Alors lundi ça, il y a une série avec deux nanas, Rizzoli and Isle, ouais. La série qui remplace Castle, qui est assez intéressante, hein, Angie Harmon, ouais. Pas mal, bien.
Elle est classée par le service de presse de France Télé comme comédie policière, ça n'en est pas une. Pas vraiment, quand même. C'est assez lourd.
Ouais, c'est.
Le premier épisode, j'ai même été franchement surpris qu'il passe à cette heure-là. Hein.
Le premier, ça dépote, hein, quand même.
Oh putain!
Alors, dans les trois épisodes de lundi, dans le premier, vous avez Balthazar Getty, qui est un excellent acteur pour moi, et dans le troisième, Marc-Paul Gosselaar, rappelez-vous, Sauvé par le Gang.
Ah oui.
NYPD Blues, tout ça, donc c'est dans Rizzoli and Isle, c'est lundi sur France 2. Sinon sur Ciné Plus Star, on a Little Big Man avec Faye Dunaway dedans et toute la réalité historique du massacre des Indiens. Et c'est un des premiers films d'ailleurs à en parler, c'était en 70. Little Big Man avec Dustin Hoffman, magnifique, grandiose, par son jeu, hein, pas par sa taille. Un film d'Arthur Penn, donc mardi sur M6, Alice au pays des merveilles, le Tim Burton. Suivi d'Edouard de Main d'Argent. Pas de la merde.
Ça c'est mieux.
Ah, voilà.
Ou alors sur RTL9 mardi, Arak Attack d'Ellery El-Kayem avec Carrie Vurer et Scarlett Johansson, s'il vous plaît. Ainsi que David Arquette.
C'est quand ça?
Qu'est-ce qu'ils font là?
C'est mardi sur RTL9. Ou alors sur NRJ12, Beowulf avec Rona Mitra, Patricia Velasquez. Également Christophe Lambert.
Ah, ben c'est celui-là, oui, d'accord.
C'est celui-là.
Ah, oui. Ouais. Je l'ai vu,
et c'est Cinéfix, The Blob, le film de Yeworth en 68 avec Steve McQueen et Aneta Corso. Le Blob, donc, de Steve McQueen. Mercredi, sur Sci-Fi, The Eye, le film de Xavier Palut et David Moreau avec Jessica Alba, Alexandre.
Tu l'aimes bien, Jessica Alba.
Et voilà, ouais, Parker Posey.
Deux Jessica Alba dans l'émission.
Ça fait déjà deux fois.
Et c'est pas fini.
Parce que mercredi.
Mercredi toujours, OCS Max nous propose Underworld avec Kate Beckinsale, le dernier.
Il échange avec l'autre.
Nouvelle ère, donc. Pas celui fait avec comment il s'appelle le réalisateur là,
Len Wiseman.
Non, c'est fait avec deux réalisateurs carrément, Marlind et Stein. Jeudi, on a sur RTL9 Honey, un film de Billy Woodruff avec Jessica Alba.
Tu
l'as vu, hein?
Non, je sais que
il est pas mal, il est sympa quoi. Mickey Pfeiffer, Lil Romeo, Missy Elliott. Yeah. Ou alors sur TV Braise, jeudi, vous avez également La Boum avec Sophie Marceau. Ciné Plus Club vous propose Les Filles du Château de Bob V. Sanders avec Pascal Vital, Isabelle Legrand, Catherine Lascaux.
C'est en fait. J'allais le faire.
C'est la version.
Il faut trouver
la version érotique.
Pas mal, la voix de bande annonce.
C'est la version érotique d'un film porno des
avec
années
Jessica
80.
Alba.
Voilà.
Je me disais,
on l'a vu aussi. Hein.
Ou alors deux gros chefs-d'œuvre sur TCL. Oula, tout d'abord, jeudi prochain. À 20h40, un tramway au désir d'Elia Kazan.
Sans Jessica Alba.
Avec Vivien Leigh, Karl Malden, Big Nose, bien sûr. Ou alors, sur Polar. Alors celui-là, si vous l'avez jamais vu, il faut le voir absolument. C'est un des meilleurs polars qui existent au monde. Les Tueurs, To Have or Have Not, en version originale. Le film de Siodmak avec Ava Gardner. Brut Lancaster, c'était son premier grand rôle. Et Edmond O'Brien, qui en fait, c'est Edmond O'Brien, le héros de l'histoire. Parce que toute l'histoire est un flashback. D'accord, vous avez compris. D'après un scénario tiré d'un bouquin de
la musique
Ernest
de suspense derrière. Anyway.
Voilà.
On l'appelle le spoiler fou dans cette émission. Hein,
c'est ça. Ouais, Siodmak, né à Dresde en 1900, le 8 août 1900, mort à Locarno.
Je spoil pas.
En 1973.
Eh merde!
Je vous dirai pas que l'assassin, hein.
Un type, donc, qui est parti des, famille juive, donc, il est obligé de partir d'Allemagne assez tôt. Il a quand même réalisé quelques films muets assez intéressants, dont Menschen am Sonntag en 1929. Il rejoint donc Hollywood au bout d'un certain moment. Il fait des films en France également, hein, pendant les années 30. Et il commence par des production série B, genre Son of Dracula en 43, ou alors Cobra Woman en 44, mais il nous commence à faire des petits polars tels que Les Tueurs, donc en 46, mais également Cry in the City en 48, avec Shelley Winters, avec Victor Mature, avec Richard Conte, ou alors un de ses films les plus connus quand même, mais on se rappelle jamais que c'est lui qui l'a fait, Le Corsaire Rouge, The Crimson Pirate en version originale, avec Brut Lancaster. Tout le monde connaît cette image de Brut Lancaster sur les bastingages de son navire. Voilà. Et d'ailleurs, pas mal d'images de ce film ont été détournées dans Le Grand Détournement. Je sais pas si tu te rappelles, quoi.
Oui, oui. Hein, là, ah, c'est toi, l'homme George si bien Hamilton. Sapé.
Voilà, voilà. Et voilà. Eh ben, ça vient de ce film de Scott Mac, quoi. Ok. Donc ça, c'est Les Tueurs, donc, sur Polar, c'est jeudi prochain à 21h. Sinon, on termine avec Vendredi. Sur AB1, la série Painkiller Jane pour la plastique de Christina Loken, parce que la série est assez pourrie quand même, faut le dire. Sur Ciné Plus, Classico, la plastique avantageuse à l'époque.
Mais arrête!
Danny Cordy dans Le Chanteur de Mexico avec Luis Mariano et Fernando Rey, qui était jeune à l'époque. Hein, il jouait pas encore les trafiquants de drogue dans French Connection. Sur TCM, Les Professionnels de Richard Brooks avec Claudia Cardinal, Brut Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance
et Jessica Alba.
Non, non, j'étais pas né à l'époque. Sur Action, un film où il y a pas de nana dedans.
La merde de Jessica Alba.
Un petit western spaghetti de Sergio Solima avec Thomas Millian, José Torres et Donald O'Brien. Et on termine avec sur OCS Géant, Zazie dans le métro, petite fille qui est interprétée par Catherine de Mongeau. C'est le film de Louis Malle en 1960, d'après le bouquin de Raymond Queneau, avec Philippe Noiret dans le rôle du tonton qui se déguise en traversier le soir. Enfin, ça, on n'a pas le droit de le dire et tout, quoi. Mais bon, c'est assez rigolo.
Oui, je l'ai dit quand même.
Comme on n'a pas le droit de le dire qu'en fait, elle verra pas le métro parce qu'il...
Sinon, retour sur ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai eu les références. Donc, la BD dont on parlait sur Ahmadinejad, c'est Ahmadinejad atomisé aux éditions 12 bis, scénario de Sifawi et dessin de Berkovici. Voilà, pour être complet.
Et Mohamed Sifawi qui nous écoute de temps à autre, hein, quand même. Voilà.
Donc, j'attendais que tu le vois sur Google, mais tu ne l'as pas fait, donc je vais le voir.
C'est un boulot de réaliser tout ça. Et il y a des gens qui se rendent pas compte, bordel, que c'est de balancer de la musique à un bon moment, tu vois, sur la vanne par rapport au prompteur. Et tout le reste. Heureusement, si vous avez manqué tous ces épisodes-là, ben, vous pouvez réécouter ce qui s'est passé quand vous avez écouté le podcast en diagonale, où vous êtes arrivé en plein milieu de l'émission, en streaming ou en réception FM. Qu'est-ce qu'ils ont manqué, Thomas ?
Eh ben, ils ont manqué. Aujourd'hui, on avait un Morgan impromptu parmi nous, une interview de 0 seconde, du super-héros en temps rompu, de la chinoise mais avec des formes, du boucher, du boulanger mais pas de Roger Hanin, de la vampire avec des marque-pages, des pandas, Chewbacca chez les Iraniens, du blob Jessica Alba en triple combo.
Nom d'un script qu'on ferait bien une série B là-dessus, dans un pays quelque part au hasard qui soit en guerre. Ils ont manqué tout ça, et heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez écoutez l'intégralité de cette émission. Il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, sans accent ni tiret, supplémentweekend.fr, et de là vous pouvez poser vos questions, écrire au courrier des audi lecteurs, il y en aura un la semaine prochaine, et n'hésitez pas.
Ah bon,
c'est gratuit, c'est ouvert, donc supplémentweekend.fr. Vous écoutez Radio FMR sur www.radio-fmr.net ou en analogique en 89.1 MHz, modulation de fréquence stéréo. Et nous sommes donc en diffusion continue jusqu'à 17h après ces boosters FM ici. Et nous retrouvons normalement la semaine prochaine.
Alors la semaine prochaine, nous poursuivrons notre programme Journée de la Femme et je vous chroniquerai en pagaille des bandes dessinées girly.
Je peux participer ou pas?
Oui, si tu veux.
Oui, parce
qu'on pourra me prêter des choses que je pourrais chroniquer.
Faudrait qu'on arrive
qu'on
à trouver
se voir en semaine.
Oui, tout ça. Et bien évidemment, je remercie Morgan Camilleri qui était juste venu normalement en spectateur.
Normalement,
et je l'ai pris vraiment, mais alors vraiment, je me suis dit non, il faut qu'il y soit.
Il a osé.
De suite, du sport et Sushinette. Donc, pour l'actualité sportive sur Radio FMR 89.
Vous avez quoi au programme aujourd'hui?
On va parler de trucs qui roulent avec 4 roues, un moteur et la marque aux losanges.
Ah,
d'accord. Ok. Soutenons l'industrie française, messieurs, dames. Ciao, bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci à vous.